Bonjour, nous sommes partis en vacances, mais pour vous accompagner, nous vous avons concocté des rediffusions. Bonne émission.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, la crise sanitaire que nous traversons a démontré la fragilité de nos sociétés et les failles d'une économie mondialisée. C'est une nouvelle occasion pour chaque pays de scanner son fonctionnement et d'en tirer des leçons pour l'avenir. Pour enrichir le débat, le mouvement citoyen Alternatiba a demandé à 60 personnalités d'esquisser le monde de demain si une réelle métamorphose écologique et sociale des territoires avait enfin lieu. Se nourrir, habiter, consommer, se soigner, que faut-il changer pour garantir à l'humanité un avenir harmonieux sur la seule planète habitable dans le coin ? Cette émission vous propose quelques pistes de réflexion.
C'est pas du vent sur RFI.
Beaucoup de gens ont projeté sur cette crise leur schéma préétabli. Les écologistes y ont vu une raison de changer complètement de politique, et je pense notamment à l'anaphore de Nicolas Hulot.
Le temps est venu.
Le temps est venu de créer du lien, le temps est venu d'applaudir la vie, le temps est venu de croire en l'autre, le temps est venu de la bienveillance. Ça m'a appris une chose, c'est-à-dire que la cause la plus urgente, c'est-à-dire la sauvegarde de la beauté du monde et de la Terre, peut générer sa propre bêtise. C'est malheureusement un festival de cuculaterie. Et j'ai pensé à cette extraordinaire réflexion de Kundera dans l'insoutenable légèreté de l'être, la fraternité de tous les hommes ne pourra être fondée que sur le kitsch. Si vous voulez, si le monde d'après, c'est ce monde-là d'empathie, de bienveillance et de crétins souriants, il me donne la chair de poule.
Les propos du philosophe Alain Finkielkraut chez nos confrères de France Inter cette semaine. Tellement 20e siècle, comme diraient mes enfants, mais j'aimerais entendre la réaction de nos invités que je vous présente tout de suite. Bonjour Tchatche Tchoveri.
Bonjour.
Vous êtes l'un des fondateurs du mouvement Alternatiba créé en 2013 et qui rassemble aujourd'hui plus de 150 collectifs de par le monde, notamment en Afrique. Et nous sommes justement avec Mariama Diallo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de Alternatiba Dakar, qui a donc été fondée en 2016. Alors, comment réagissez-vous à ces propos de Alain Finkielkraut, qui sont révélateurs hein, quand même du débat d'idées qui est actuellement dans les médias du monde entier? Tchatche Tchoveri.
Alain Finkielkraut préfère ou veut qu'il juge pieux de Nicolas Hulot, en fait, la réalité sordide d'un monde déréglé. D'un monde déréglé parce que cette crise du coronavirus, elle n'est pas venue seule. Elle a suivi les gigantesques incendies qui ont ravagé l'Australie, une invasion massive de criquets en Afrique de l'Est, l'effondrement de la région autour du lac Tchad, une sécheresse exceptionnelle en Europe centrale. C'est un monde aussi où 2153 milliardaires ont eux seuls plus d'argent que 60% de la population mondiale, 2000 personnes. Et du coup, ce réalisme sordide et résigné à la Finkielkraut, pour moi, il n'a rien de réaliste. C'est-à-dire que pour être réaliste, en fait, il lui faudrait trois planètes. Or, il ne les a pas.
Mariama Diallo.
Alors, je pense que la bêtise, c'est plutôt l'entêtement, le refus aujourd'hui de vouloir, coûte que coûte, en tout cas, croire à un modèle, à un système qui est justement en souffrance, qui est à l'agonie. C'est aussi ne pas être attentif à tous ces signaux de déclin qui se profilent depuis des années. En Afrique, on les voit également en Asie. Je pense qu'on n'est plus dans des flous conceptuels, on n'est pas dans une rhétorique ou des terminologies abstraites. Ce sont des modes de production aujourd'hui, de consommation, de vie qu'on expérimente depuis des décennies et qu'on voit aujourd'hui qui rendent la société plus juste, plus durable et plus conviviale. C'est pas tout simplement une rhétorique, c'est pas un argumentaire, mais c'est un mode de vie aujourd'hui, l'écologie qu'on expérimente dans les collectivités, au sein des associations, au sein des collectifs, et qui aujourd'hui nous permettent en tout cas d'avoir une société beaucoup plus juste, beaucoup plus durable et beaucoup plus conviviale.
Alors, c'est justement pour alimenter le débat, Tchétchévérik, vous avez publié ce recueil, « Et si ?»
En fait, c'est « si on profitait de ce moment de crise comme d'une opportunité pour changer de chemin. Et du coup, si on avait changé de chemin, c'est-à-dire au lieu de réemprunter, comme c'est en train de se faire en ce moment, en subventionnant l'aviation, l'industrie automobile, en repartant comme avant, mais au lieu de ça, si on prenait d'autres chemins, quel monde ça construirait dans 20 ans, dans 30 ans? On a essayé d'imaginer ça. Et du coup, là, ont été sollicités des militants, des scientifiques, des intellectuels et puis des artistes aussi pour essayer de peindre ce monde, cette planète, cette société, cette vie de demain, dans 20 ans, dans 30 ans, si aujourd'hui on changeait de chemin. Ce n'est pas uniquement que ça nous permettra de limiter les crises qui viennent et de mieux nous préparer à leurs effets, mais c'est qu'en fait, ça permet de vivre mieux, de diminuer le stress et l'aliénation des populations, de créer de l'emploi et de le répartir sur tout le territoire, et non pas dans des poches très concentrées. Ça permet de changer les paysages et d'avoir un monde en fait beaucoup plus humain, c'est-à-dire parce que, justement, on aura mis l'économie à sa place. En fait, ce qui est frappant aujourd'hui dans le monde d'avant, la crise du coronavirus, c'est que l'économie avait pris toute la place. C'est Carlo Pogliani qui décrivait ça dans La Grande Transformation, c'est-à-dire que l'économie, qui est théoriquement un outil pour satisfaire nos besoins de manger, de se loger, etc., est devenue en fait la fin à laquelle on doit plier nos besoins et même qui nous en fait créer de nouveau auquel on n'avait jamais pensé parce qu'elle a besoin de s'en nourrir. Et ce faisant, elle nous mène au mur. Et du coup, là, en fait, pendant cette crise, qu'est-ce qu'on a découvert? Que les États, la souveraineté populaire peut remettre l'économie à sa place, peut prendre des décisions incroyables, c'est-à-dire réquisitionner des entreprises, arrêter la circulation aérienne, revaloriser des métiers comme les soignants, les éboueurs, etc. Ainsi de suite, c'est-à-dire que si on veut, on peut complètement changer de paradigme. Et nous, on dit, ben, essayons, continuons là, changeons de paradigme et voyons où ça nous mène.
60 personnalités ont participé à ce recueil ici. Chacune a choisi un verbe. Christophe Cassou est directeur de recherche au CNRS, climatologue. Il est l'un des principaux auteurs du prochain rapport du GIEC qui devrait sortir en 2021. Il a choisi le mot « anticiper » et il nous explique pourquoi.
En fait, quand on pense au mot « anticiper », on touche tout de suite cette notion de risque, parce que d'évaluation du risque ou du rapport au risque. Parce que quand on anticipe quelque chose, donc on agit pour diminuer l'exposition au risque. Et donc ce mot-là convient à la fois pour les crises comme la pandémie que l'on subit, mais aussi pour le changement climatique.
Alors on a beaucoup lu dans les médias que cette crise sanitaire était peut-être une répétition des crises qui pourraient venir dans les prochaines années, notamment à cause des conséquences du dérèglement climatique. Et vous, vous dites que ce n'est pas si simple.
Non, ce n'est pas si simple parce qu'en fait, les temporalités sont vraiment différentes dans la mesure où la crise actuelle, bon, on l'a subie. On a pris des mesures qui sont extrêmement fortes pour essayer donc, d'atténuer l'effet de la pandémie. Et on voit tout de suite les bénéfices, on va dire, de ces actions. Le changement climatique, c'est assez différent dans la mesure où les temporalités sont beaucoup plus longues. On se place sur des échelles de temps qui sont de l'ordre de la décennie, voire de plusieurs décennies, et donc la perception du risque est différente. Le type d'action est également différent. Alors, évidemment, ces deux crises partagent l'urgence, on va dire, l'urgence d'agir. Par contre, je mettrai un petit bémol sur le parallèle qui est fait souvent entre cette crise du Covid et puis des crises liées au changement climatique.
Mais pourquoi concrètement ?
En fait, les crises liées au changement climatique, alors moi, j'aime pas trop le mot crise pour parler du changement climatique parce que c'est quelque chose qui est plutôt chronique, une maladie chronique qui se met en place et parce qu'il n'y a pas de fin, en fait, au changement climatique à l'échelle de quelques générations. Hein. Le changement climatique, il est déjà là. Et donc, en fait, les actions liées au changement climatique doivent être de deux natures. Elles doivent correspondre à une forme d'adaptation au changement climatique qui sont en cours et d'atténuation pour essayer de limiter le réchauffement climatique à un certain niveau. Donc, il n'y a pas de retour en arrière quand on parle de changement climatique. On est dans une temporalité qui est très différente.
Il n'y a pas de vaccin contre le changement climatique. Donc, vous dites qu'il faut agir dès maintenant pour éviter de subir des chocs hein, comme celui que l'on subit aujourd'hui, qui est un choc extrêmement violent. Mais agir dès maintenant pour lutter contre le changement climatique, c'est en fait changer de monde. Hein. Parce qu'on voit bien, là, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé avec cette crise sanitaire. Mais finalement, les calculs qui ont été faits prouvent que le niveau de baisse des émissions de gaz à effet de serre actuel est l'équivalent de ce qu'il faudrait faire presque chaque année pour lutter réellement contre le dérèglement climatique.
Oui, en fait, cette crise, elle est très instructive pour le climat et puis pour estimer notre empreinte en termes d'émissions de gaz à effet de serre, donc de CO2 en particulier, mais aussi des particules qui forment ce qu'on appelle généralement la pollution atmosphérique, qui est visible. Les premières estimations montrent que, à l'échelle mondiale, la baisse des émissions de CO2 sur une année sera à peu près autour de, on va dire, 8%, entre 7 et 10%. Et ce chiffre-là correspond à l'effort que l'on doit faire chaque année pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour limiter le réchauffement à plus de 2 degrés, c'est-à-dire pour se contraindre aux accords de Paris qui ont été signés, qui sont maintenant passés dans la loi énergie-climat. Donc, on voit que les émissions de gaz à effet de serre sont comparables, et ce qui montre bien que c'est absolument pas possible d'arrêter la société sur du long terme, comme on l'a subi pendant la pandémie. Donc, ça veut vraiment dire qu'il ne faut pas revenir à l'âge de pierre, hein, il faut pas, ou à la bougie, comme on dit souvent. Il ne faut pas limiter non plus les déplacements à 100 km comme actuellement. Il faut vraiment changer nos modes de vie. Il faut transiter vers des énergies plus propres, vers des modes de transport qui sont plus propres, vers une agriculture qui est beaucoup plus raisonnée pour pouvoir atteindre cette diminution des émissions de gaz à effet de serre qui est du même ordre de grandeur.
Tchétchéveri, cette baisse des émissions, c'est une bonne nouvelle. Hein. Elle correspond, Christophe Cassou vient de le dire, à l'effort annuel qu'il faudrait faire. Or, on a vraiment le sentiment que là, l'économie est à l'arrêt. Et puis, de toute façon, cette baisse, elle est temporaire puisqu'elle est subie et ce n'est pas le résultat de changements systémiques.
D'abord, moi, je trouve qu'il y a une similitude quand même entre la crise du coronavirus et le changement climatique. C'est l'incapacité de nos gouvernants et de ce système du capitalisme, de la main invisible du marché, à l'anticiper et à préparer nos sociétés au choc. À anticiper parce qu'il y avait quand même, depuis 2003 et la crise du SRAS, plein d'alertes scientifiques et l'OMS avait fait des avertissements, etc., sur cette possibilité-là. Cette incapacité à écouter les préconisations qui sont faites en matière de changement climatique par le résumé aux décideurs des rapports du GIEC tous les 4 ans. Mais, par exemple, là, il y avait un rapport parlementaire en 2005, donc après le SRAS, qui tirer les leçons du SRAS et qui insistait sur, par exemple, l'importance d'avoir un stock de masques adaptés et ce qui aurait un coût, mais que ce coût serait rien par rapport à, si jamais il y avait une nouvelle crise de ce type, à la nécessité à laquelle on serait peut-être contraint de mettre à l'arrêt toute l'économie et toute la société pendant une période assez longue. La question du changement climatique, c'est comment on paye moins cher la facture qui va nous être présentée et du coup comment on anticipe, comment on prépare nos sociétés. Et d'après moi, aujourd'hui, on voit qu'on en a la capacité.
Mariama Diallo, les conséquences du dérèglement climatique en Afrique, elles sont déjà là. Hein.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, quand on parle de projection ou tout simplement de perception du changement climatique, nous, on n'est plus là. Et autant que l'anticipation, elle est importante, nous, aujourd'hui, c'est plutôt l'adaptation. On a une avancée de la mer extraordinaire. On a déjà des villages qui ont été engloutis, justement, avec cette avancée de la mer-là. Une baisse drastique des ressources halieutiques, un dérèglement, justement, des pluviométries qui fait que les agriculteurs souffrent chaque année de la baisse des rendements. Donc, nous, la question, elle n'est plus tout simplement comment anticiper, mais c'est plus comment est-ce qu'on s'adapte. Les conséquences, elles sont déjà là, elles sont réelles, elles sont vécues au quotidien. Et je pense que ce vécu-là doit justement augurer tout un mouvement de résistance il doit pouvoir en tout cas être un accélérateur d'un modèle de société qui serait plus responsable, plus égalitaire, mais il doit surtout pousser les responsables historiques de ces changements climatiques-là à agir. On parle souvent de ce fameux fonds climat, de ce fameux fonds qu'on n'arrive jamais à alimenter correctement. Et aujourd'hui, quand on voit toutes ces sommes-là qui sont mises en tout cas dans des plans pour relancer l'économie, on voit que donc l'argent, enfin, est bien là finalement disponible pour pouvoir aider, enfin, accompagner plutôt ces pays-là pour pouvoir faire face à ces conséquences-là. Je le rappelle, l'Afrique, c'est quand même à peine 5% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc l'urgence aujourd'hui, c'est de pouvoir encore une fois s'adapter et de mettre tous ces pays-là face à leurs responsabilités.
Autre dimension mise à nu par la crise sanitaire, les inégalités sociales. On en parle juste après une pause musicale en compagnie de Yurki Ekisa, qui a composé une chanson en euskara, la langue basque, autour du recueil Essi. La chanson s'appelle Bihar, qui se traduit par « Demain ».
Zangoak lurrean, besarkadak orainik faltan, ezindatzera egin hobe. Erabat galdu ginen hau Ez genuen miraila mehatxua ikusi nahi Nola utzi bide bat beste biderik omen ez denean Zas den dena gelditu da Mundrunta zementuzko egia pitzatu da Zer eginen dugua zuloak tapatu Ala artesik bakoitzean proiektu bat landatu Sortu hazi ezi ikasi irakatsi hautatu erabaki Arazi, konponduta trukatu, janeta erikatu, ahalden dena bitokiratu. Bia, hemen txepertan da, izazu atzoko hartzean. Bia, hemen txepertan da, bia, hemen txepertan da, izazu atzoko hartzean.
Dans C'est pas du vent sur RFI, nous parlons des leçons que nous pourrions tirer de cette crise sanitaire pour inventer un monde plus écologique et plus solidaire avec Tchétché Tchéveri, l'un des fondateurs du mouvement Alternatiba, et Mariama Diallo, porte-parole de Alternatiba Dakar. Car le mouvement Alternatiba vient de publier un recueil baptisé Essi, avec les réflexions de 60 personnalités pour penser le monde d'après cette crise. John Palais en fait partie. Il est porte-parole d'Action non-violente COP21 et il a été frappé par la mise à nu des inégalités sociales.
Je dirais que non seulement c'est une crise qui révèle des inégalités sociales, mais c'est une crise qui exacerbe les inégalités sociales, je pense aussi. Un des exemples les plus flagrants, je pense que c'est celui du logement. Évidemment, être enfermé chez soi quand on a un logement précaire, c'est pas du tout la même chose que quand on a déjà le choix du logement dans lequel on va être confiné. Et puis même si on n'a pas plusieurs logements, si on a un logement confortable, suffisamment grand, on est évidemment dans des situations tout à fait différentes. Moi, la deuxième chose qui est très frappante, c'est l'inégalité par rapport aux métiers et aux conditions de travail. Où là aussi, je pense que une partie des gens pouvaient adapter leurs conditions de travail et d'autres gens étaient en première ligne. Et je pense que ce qui est choquant, c'est de voir que les gens qui sont en première ligne, soit n'ont pas tous les conditions pour faire leur travail correctement, alors c'était notamment le cas des personnels soignants, soit, par exemple, les caissières, les éboueurs, dont on a vu à quel point leur métier était essentiel et indispensable au bon déroulement de la vie publique, des métiers qui sont durs, des métiers qui ne sont pas valorisés. Et ça, je pense que là aussi, il y avait quelque chose de spectaculaire, de se rendre compte que bah, finalement, les métiers les plus essentiels étaient parmi ceux qui avaient le moins de reconnaissance sociale et les salaires les plus bas. Et parmi les leçons à retenir, je pense qu'il y a ça. Quelle est la hiérarchie des valeurs qu'on veut pour guider notre société ? Et sur cette hiérarchie des valeurs, il y a un cas aussi exemplaire, c'est celui d'Amazon, qui vend tout et n'importe quoi, qui se développe beaucoup en ce moment en France. Et il a fallu une décision de justice pour obliger Amazon à limiter ses activités aux besoins essentiels. Ce qui veut dire qu'avant cette décision de justice, Amazon continuait à exposer des travailleuses et des travailleurs à des besoins non essentiels. Et là, je pense qu'il y a une autre inégalité qui se voit, c'est qu'il y a des gens qui sont en première ligne, même pas parce que c'est indispensable, mais simplement pour satisfaire des besoins non essentiels d'autres personnes qui vont pouvoir commander en cliquant sur leur ordinateur des produits. Et là aussi, je pense que ça doit nous interroger. Et juste, si je peux me permettre de dézoomer un tout petit peu, ça doit nous interroger sur notre mode de consommation normal, entre guillemets, c'est-à-dire d'avant le coronavirus. Il faut quand même se rappeler qu'à chaque fois qu'on achète du matériel électronique, des téléphones portables, etc., on est dans cette forme d'inégalité. C'est-à-dire qu'on les achète, par exemple, en Occident, mais partout dans le monde, mais en fait, ils sont fabriqués dans des régions du monde avec des conditions de travail beaucoup plus compliquées qui provoquent des pollutions régionalisées aux endroits où c'est fabriqué. Et là aussi, en fait, on pourrait considérer qu'il y a des personnes en première ligne qui s'abîment la santé, qui sont mal payées pour fabriquer des objets qui sont consommés par d'autres catégories de la population dans le monde sans forcément avoir la pleine conscience de tout ce que ça implique derrière. Et une des choses que j'aimerais, moi, c'est que bah, ces questions qui ont commencé à se poser dans le confinement, on continue de se les poser et on essaie de les généraliser pour voir un petit peu ce qui doit être questionné dans notre mode de vie, ce qu'il faut reprendre, ce qu'il ne faudrait peut-être pas reprendre ou ce qu'il faudrait peut-être reprendre d'une autre manière.
L'un des enjeux, c'est finalement de savoir comment on va pouvoir à terme continuer à faire société, comme on dit, c'est-à-dire à garder une cohésion, parce qu'on sait qu'en France, et c'est pareil dans plein de pays, hein, 10% des plus riches émettent par exemple 3 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que les plus pauvres. Donc ce sont les plus riches qui sont responsables de la dégradation de l'état du monde finalement, et ce sont les plus pauvres qui trinquent. Et on voit déjà un peu partout dans le monde, hein, une colère qui monte. Est-ce que là, il n'y a pas un risque très fort à terme pour l'humanité, n'ayons pas peur des mots.
Ah mais c'est évident. Mais le dérèglement climatique, vu l'ampleur qu'il est en train de prendre, menace directement les conditions de vie civilisées sur Terre. Aujourd'hui, il y a un consensus scientifique très solide sur ça. Hein. Ce n'est pas une question de météo, ce n'est pas une question du temps qui fait, ce n'est même pas qu'une question d'écologie, c'est les conditions de vie civilisées sur Terre. Les pires conséquences sont à venir dans les décennies qui viennent, mais les plus grands leviers d'action se situent dans les années qui viennent. Et ça, ça demande là aussi un exercice d'anticipation très compliqué à faire. Alors oui, c'est le vivre ensemble qui est, et la manière dont on fait société qui est directement menacée. Et en plus, ça demande de penser le problème de manière complètement globale et mondialisée. Personne ne peut relever ce défi avec la seule population de son pays ou de sa seule région. Il n'y a pas de frontière pour le CO2, il n'y a pas de frontière pour les grands équilibres de la planète, même si malheureusement, c'est les pays du Sud qui sont les moins responsables du dérèglement climatique qui est actuellement en cours, qui sont pourtant les premiers impactés par les premiers événements climatiques extrêmes que ça a tendance à faire augmenter. Mais c'est un enjeu complètement global.
Tchétché Tchoveri, il faut repenser la hiérarchie des valeurs, comme le dit John Paley.
Je dirais une chose qui est un peu provoque, c'est que d'après moi, la lutte contre le changement climatique, c'est la nouvelle lutte des classes. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont les plus pauvres et les moins responsables du changement climatique en sont les premières victimes. C'est le cas de l'Afrique, Mariama l'a expliqué, 5% des émissions de gaz à effet de serre, mais aux avant-postes de la facture à payer. C'est eux qui ont le moins contribué au changement climatique actuel et c'est eux qui vivent le plus durement les conséquences déjà présentes. Mais c'est le cas aussi dans nos sociétés occidentales, parce que ceux qui ont tout intérêt à ce que ça change et à ce qu'on mette des politiques climatique ambitieuse, c'est les plus pauvres, parce qu'ils vont y gagner en termes d'emploi, parce que justement les emplois dont on a besoin au niveau agriculture paysanne et durable, au niveau transport collectif et transport doux, au niveau réparation et économie circulaire, au niveau politique d'isolation des logements, etc., etc. Donc les métiers qui vont être revalorisés, c'est les métiers des classes populaires. Et par contre, ceux dont on n'a pas besoin, justement, qu'il va falloir supprimer, c'est les traders, les publicitaires, les designers, etc., qui veulent créer des besoins là où il n'y en a pas et qui sont nuisibles. Et d'autre part, c'est les plus pauvres aussi qui auront le plus de mal à s'adapter aux conséquences du changement climatique ici aussi. Alors que les plus riches, eux, c'est ceux qui ont le moins d'intérêt au changement que nécessite une politique climatique ambitieuse, parce que ce changement, il remet en cause des intérêts très puissants, hein, qui tirent des milliards et des milliards de bénéfices de la pétrochimie, de l'agroalimentaire industriel, de la publicité, etc., etc. Donc, eux, ils n'ont pas intérêt à ce que ça change et à ce que se mettent en place d'autres manières de gérer notre système. Et du coup, c'est pour ça que je dis que le changement climatique, c'est la lutte des classes d'aujourd'hui et de demain, et que certains vont tout faire pour empêcher la transition parce qu'elle va contre leur intérêt, et que les classes populaires, elles, il faut qu'elles voient que leur intérêt à tous les niveaux, de leur emploi, de leur pouvoir d'achat, de leur santé, se situe justement dans ces politiques de changement écologique, climatique de nos sociétés.
Mariama Diallo.
Oui, la question des inégalités est importante. Elle est à la fois liée à l'origine même de ces crises-là, je le rappelais tout à l'heure, mais au sein même des pays aussi, des pays du Sud, qui subissent de plein fouet les conséquences de ces changements climatiques-là, on voit ces inégalités-là. Aujourd'hui, ceux qui les vivent le plus, les conséquences des changements climatiques, ce sont toutes ces personnes-là, qui habitent à côté des écosystèmes, notamment ceux qui habitent en milieu rural, ceux qui habitent au niveau des villages côtiers. C'est toutes ces personnes aussi qui ont quand même des revenus qui dépendent justement de ces écosystèmes-là. Je pense aux pêcheurs, je pense aux agriculteurs. Et aujourd'hui, ce que cette crise-là, en tout cas, ce que cette crise-là écologique, elle fait à nos sociétés, c'est tout simplement ce que cette crise liée au coronavirus fait à notre société. Au Sénégal, nous avons une économie qui est très relationnelle, qui résiste difficilement, par exemple, à la distanciation sociale. Donc, on a toute une catégorie de personnes qui perdent leurs revenus. Justement, une récente étude montrait que aujourd'hui, 86,8% de ces personnes-là enquêtées déclarent avoir perdu leurs revenus. Donc, pour toutes ces personnes-là, aujourd'hui, le confinement est un luxe. Le confinement est tout simplement impossible. Pareil aussi, vous avez des gens qui sont beaucoup plus exposés que d'autres, pas parce que c'est des métiers essentiels, mais tout simplement, ce sont des personnes qui travaillent dans des multinationales, qui travaillent dans des entreprises, aujourd'hui, qui sont beaucoup plus exposées que d'autres personnes. Donc, il y a tout un corollaire à faire, finalement, entre cette crise écologique et cette crise sanitaire-là en matière d'inégalité.
Restez sur RFI, je vous propose de continuer à réfléchir sur les leçons que nous pouvons tirer de cette crise sanitaire après une pause musicale que vous allez reconnaître, Tchetch et Mariama, puisqu'il s'agit de la musique diffusée lors de l'Alternatiba Tour, 5000 km parcourus en vélo par des membres du mouvement à travers toute la France et 5 pays européens qui ont mobilisé des dizaines de milliers de personnes aux vraies alternatives pour lutter contre le dérèglement climatique.
La menace des catastrophes, plein d'époques et difficiles. Temps de crise, on est accro aux énergies fossiles. Écrasé par les marchandises, pas de chien, maman pousse des cris. L'espoir brisé comme en Arctique, la banquise, mirage du progrès, on a perdu le cap. Les inégalités s'aggravent alors qu'on taffe comme des malades. Le climat se dégrade, les dégâts sont palpables. Et pourtant, les citoyens baissent les bras. La course au profit égale carnage, ravage. Les pauvres paient la facture et les riches se gavent. On rase le paysage pour un centre commercial. T'as beau chanter la croissance, elle est insoutenable. Gaz de schiste, agrocarburant et nucléaire. Gardez ces fausses solutions, il faut tourner la là-bas. J'ai face aux multinationales qui veulent nous prendre pour otage. Je crie power to the people, construisant d'en bas.
On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise.
Le cœur au bon endroit, on n'a pas peur de se mouiller. Il est l'heure de passer aux actes, attaquer les problèmes à la racine. Changement radical, assez de blabla, ça change quand il y a des résultats. On veut pas rester à l'écart, on veut rassembler l'âge. Viens, mets ta part le cœur à l'ouvrage pour un mouvement global avec un ancrage local. Climat, justice, élevant nos voix, décisif. Notre impact prépare la montée en charge pour la COP 21. Et bien au-delà, éviter que des milliers de personnes se noient. Pensez à nos mots et nous en serons. Avec un tour de l'Europe sur des vélos multipasses, on galvanise sur presque 200 étapes. Alternativa, militer dans la joie. Allons changer le système et pas le climat.
On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons des leçons que nous pourrions tirer de cette crise sanitaire pour inventer un monde plus écologique et plus solidaire avec Tchétché Echeverri, l'un des fondateurs du mouvement Alternatiba, et Mariama Diallo, porte-parole de Alternatiba Dakar. Car le mouvement Alternatiba vient de publier un recueil baptisé Essi avec les réflexions de 60 personnalités, un recueil que je vous invite à lire. Par exemple, l'épidémiologiste Kevin Jean, qui est aussi président de l'association Science Citoyenne, nous invite à repenser notre rapport à la santé pour éviter des crises comme celles que nous traversons. Il a choisi le mot « prémunir » car cela fait des années que les scientifiques alertent sur le risque d'une épidémie comme celle que nous traversons sans jamais avoir été écoutés.
Oui, tout à fait. Sur le risque d'émergence de nouveaux pathogènes du fait d'activités humaines qui nous mettent de plus en plus au contact de la faune sauvage, qui dégrade les écosystèmes. Ça faisait des décennies que les spécialistes de maladies infectieuses alertaient sur cet aspect-là. On a un peu oublié ça, ce lien entre santé et environnement dans la science moderne, qui s'est focalisé vraiment sur les causes immédiates des maladies. Mais du coup, c'est le message qu'un champ scientifique assez récent, qu'on appelle la santé planétaire, essaye de faire passer. C'est que finalement, la préservation de la santé et celle de l'environnement, ce sont deux causes indissociables.
Alors expliquez-nous ça, le lien entre santé et préservation de l'environnement.
Ben, ce lien, il nous a un peu explosé au visage durant cette pandémie, où on a bien vu que la pression sur les écosystèmes, dans le cas donc, du coronavirus, sont les intrusions humaines toujours plus loin dans les écosystèmes pour le commerce de faune sauvage ou pour la chasse. Ça nous met au contact de pathogènes que les populations humaines ne connaissent pas et donc contre lesquels ils ne sont pas immunisés ou protégés. Et ce type d'exemple, on en a eu beaucoup dans l'histoire récente, dans le 20e, 21e siècle. La grande majorité des causes de nouvelles maladies infectieuses, c'était lié à ce type de phénomène, de dégradation des écosystèmes, d'intrusion dans des habitats d'espèces sauvages, de déforestation. Donc aujourd'hui, c'est le coronavirus en Asie, mais au 20e siècle, on a eu sur le continent africain les exemples du VIH ou encore d'Ebola. Tout ça, ça peut nous paraître assez lointain dans les pays occidentaux, mais il ne faut pas oublier qu'on a une grande responsabilité dans les dégradations de ces écosystèmes, que ce soit via nos assiettes, par les systèmes agricoles, agroalimentaires des pays occidentaux, également par les carburants qu'on importe. La déforestation en Asie, c'est l'huile de palme. La déforestation en Amérique du Sud, c'est le soja qui vient alimenter le système d'élevage intensif en France. Donc, il ne faut pas se cacher cette part de responsabilité qu'on a à l'échelle collective dans nos pays occidentaux.
Et on a déjà créé, les conditions d'une crise sanitaire qui est en cours, puisque avec la dégradation de l'environnement, on a déjà dégradé massivement la santé de millions de personnes.
Oui, tout à fait. Hein. Ça, on le voit notamment avec l'explosion des maladies chroniques, hein, que ce soit des cancers, des causes de diabète ou là, de plus en plus, hein, le rôle des polluants de l'environnement, hein, de tout ce qui est pollution chimique des écosystèmes est de plus en plus décrit, pointé du doigt. Des modes de vie qui vont vers de plus en plus de sédentarité, du fait de l'étalement urbain également, du recours aux automobiles. Donc, tout ce lien entre l'environnement dans lequel on évolue et la santé des populations, ouais, on le voit de plus en plus et on en paye déjà quelque part le tribut.
Est-ce qu'on a des chiffres ?
Alors, pour donner des chiffres à l'échelle globale, c'est très compliqué. Ce qu'on peut, par exemple, chiffrer, les conséquences en santé du dérèglement climatique. On a des travaux qui nous laissent penser, par exemple, que pour un réchauffement climatique de l'ordre de 2,5 degrés, à l'échelle du globe, on aurait plus d'un milliard de personnes qui seraient exposées au moins un mois par an à des conditions de température et d'humidité qui sont incompatibles avec le travail. Donc ça, c'est pour un réchauffement de 2,5 degrés. On a vu ce que ça donnait, hein, une économie où le travail est impossible pendant plusieurs semaines en termes de répercussions sur la société, sur l'économie, sur les inégalités. Et sur le volet du réchauffement climatique, là, on est sur quelque chose qu'on ne peut plus ignorer tant les preuves scientifiques s'accumulent.
Alors, pour nous prémunir, vous prônez un décloisonnement des politiques publiques. Expliquez-nous ça.
Oui, tout à fait. Hein. Donc, en France, comme dans beaucoup de pays francophones, on a une vision de la santé qui est essentiellement curative. Un des chiffres qu'on donne en France, c'est que, par exemple, sur 100 euros dépensés dans la santé, il y en a seulement 4 qui vont à des politiques de prévention. Et pour le mettre en parallèle avec un autre chiffre, donc il y a une courbe qui est bien connue en économie de la santé, c'est celle qui lie le pourcentage du PIB lié à des dépenses de santé et l'espérance de vie. Et donc, quand on dépasse en gros 10% du PIB dédié à des dépenses de santé, on se rend compte que le gain en santé est beaucoup plus faible qu'avant. Et donc, finalement, passer ce seuil, entre guillemets, enfin le seuil n'est pas net, mais de 10%, donc en France, on est plutôt à 13%. Et finalement, ce que ça laisse penser, c'est que cet argent qu'on vient dépenser de manière supplémentaire, peut-être qu'il serait mieux investi dans des politiques de logement, dans des politiques agricoles, dans des politiques d'urbanisme, qui auraient elles-mêmes une répercussion et un impact sur la santé, peut-être de manière plus importante que si on investit toujours sur cette approche curative.
Mais ça veut dire qu'il faut décloisonner aussi les prises de décision ?
Oui, tout à fait. Hein. C'est-à-dire que la santé, c'est finalement pas que le domaine des médecins et des soignants qu'il faut, que finalement la santé, c'est aussi le domaine des agronomes, des urbanistes, des écologues, des spécialistes de l'aménagement du territoire. Et donc, il faut former toutes ces professions à des enjeux de santé, et tout comme il faut former les soignants à des enjeux environnementaux et des enjeux climatiques.
Tchatche Tchoveri, décloisonner les politiques publiques pour mieux anticiper les crises, voilà ce que propose Kevin Jean. Quelle est votre réaction ?
Moi, je dirais même plus. Une politique climatique ambitieuse, et c'est décrit dans justement le projet SI d'Alternativa, produirait une population globalement en bien meilleure santé à tous les niveaux. Pourquoi ? Pour prendre uniquement quelques exemples qui sont justement l'objet de textes dans ce projet-ci, c'est que d'abord, une politique climatique ambitieuse, ça veut dire mettre la part belle au transport doux, la marche, le vélo, etc. etc. Et du coup, une population beaucoup moins sédentaire qu'aujourd'hui. C'est également diminuer la consommation de viande. Et par contre, la viande qu'on consomme, tout comme le reste de notre alimentation, qu'elle soit issue d'une alimentation locale, saine, du coup beaucoup plus variée, qui nous procure également un microbiote diversifié, enrichi. Et tout ça, on sait que c'est bon à la fois pour être plus résistant aux infections, etc., et pour combattre un certain nombre de fléaux modernes comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, etc. C'est également, d'après moi, une population globalement en meilleure santé parce qu'on aura diminué les facteurs de stress et d'aliénation qui sont véhiculés par l'actuel système. Donc, on a parlé tout à l'heure longuement des inégalités. Évidemment, quand on est à un tel niveau d'inégalité sociale, ça produit des tensions de tous les côtés. C'est du coup là des politiques radicales de partage de travail et de richesse viendront enlever tout plein de sources de stress et de maladies psychosomatiques. Mais également, pour moi, et ça on l'a vu pendant ce confinement, c'est que il y a un changement de paradigme qui est d'accorder plus d'importance au lien qu'au bien, plus de lien et pas plus de bien. Et ça, pour moi aussi, ça induit une population en meilleure santé parce que ne courant pas tout le temps après des besoins qui seront forcément inassouvis et donc dans un état de frustration permanente et qui sera beaucoup plus dans des pratiques de culture et de culture non pas spectatrice mais actrice, de contemplation, de profiter du moment, des relations humaines, etc. Et moi, je suis persuadé qu'effectivement, tout ça, en plus d'être bon pour le climat et la biodiversité, c'est bon pour la santé de chacun et de chacune.
Mariama Diallo ?
Oui, depuis des années, on s'interroge en tout cas beaucoup sur l'impact des pollutions sur la santé ou l'impact des engrais, des pesticides, de la qualité de l'air dans une ville quand même comme Dakar. C'est un peu notre quotidien, je vais dire, une mauvaise qualité de l'air comme d'autres capitales africaines comme Cotonou. Et on voit justement ces dernières années-là que le nombre de personnes atteintes de maladies respiratoires, de maladies cardiovasculaires a explosé, de même que les personnes qui ont des allergies. Cela passe aussi indirectement par notre alimentation bourrée de pesticides, d'engrais chimiques ou même de produits importés issus justement de l'industrie agroalimentaire. C'est pour ça que justement que le décloisonnement de politiques publiques dont il parlait tout à l'heure est important, parce qu'il y a une interdépendance entre les différents secteurs, que ce soit le transport, que ce soit l'alimentation, que ce soit la santé, tout est lié, d'où l'importance d'avoir justement des politiques publiques qui font système, puisque tout est lié, d'avoir des politiques publiques qui prennent en compte à la fois la question du transport, la question de la santé, la question de l'alimentation. Aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, on importe beaucoup de produits transformés à l'international qui ne sont pas forcément très sain pour la santé, alors qu'on a quand même des produits sur place issus d'une agriculture saine et durable. Si ces produits-là étaient assez valorisés, ça éviterait à la fois les émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime, en même temps, ça impacterait l'économie locale et en même temps, ça aiderait à avoir en tout cas une santé, une meilleure santé pour les populations. Donc, il faut aller vers ce décloisonnement-là dont il parle. Malheureusement, dans un pays comme le Sénégal, on a des politiques publiques assez cloisonnées où les ministères, on a parfois l'impression qu'ils ne se parlent pas. Je prends un exemple patent, l'exploitation du zircon en Casamance, où cette exploitation-là a justement été autorisée sur une aire marine protégée, quand même créée par un ministère de l'Environnement et censée protéger cette zone marine et côtière-là. Donc, au-delà même de la santé, il est important d'avoir en tête, en tout cas, cette interdépendance-là, de faire en sorte que ces politiques publiques-là fassent système et soient cohérentes entre elles.
Tchèche Echeverri, on arrive à la fin de cette émission. Dans le recueil ESSI, il y a, donc, on l'a dit, hein, 60 personnalités qui s'expriment, mais il y a aussi des recommandations pour agir, parce que là, tout ce qu'on vient de dire dans l'émission, par exemple, peut donner envie à des gens de se dire « bon bah, et moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire ?» Et justement, le principe même d'Alternatiba, c'est de proposer aux gens des alternatives pour s'impliquer. Alors évidemment, il y en a toute une liste hein, dans le recueil, il suffit d'aller le lire, mais si vous deviez en prioriser quelques-unes.
En fait, le monde de demain, il existe déjà. Il existe à l'échelle de chaque territoire et au niveau de toutes ces alternatives très concrètes qui sont aujourd'hui portées par la société civile. Donc, c'est par exemple des modes alternatifs de déplacement, alternatifs auto-voiture, le vélo, les ateliers vélo, les batailles pour des politiques cyclables beaucoup plus ambitieuses. Et aujourd'hui, on voit qu'en cette période de sortie du confinement, il y a des choses qui se mettent en place un peu partout. Et après, c'est un autre type d'agriculture et d'alimentation avec des circuits courts comme les AMAP, les coopératives, les paysans, citoyens, etc. Et beaucoup, beaucoup de choses qui existent partout, y compris des choses qui permettent d'avoir une alimentation locale et saine à des prix populaires. C'est également une autre manière de placer son épargne. Aujourd'hui, il faut être conscient que quand on laisse son argent dans des grandes banques qui financent justement le pétrole, l'industrie automobile, le ciment, les grands projets destructeurs, etc., on finance avec notre argent la fin de ce monde et on peut placer en fait cet argent dans bien d'autres sociétés qui financent elles, la transition écologique. Donc ça, c'est un choix qui est à la portée de tout le monde. On peut également prendre des fournisseurs d'énergie renouvelable, comme Enercoop en France, qui est une coopérative citoyenne, ou nous, en Pays Basque, on a Enaria, qui est quelque chose qui en plus fournit de l'énergie renouvelable et locale. Et donc, il y a plein de choses comme ça qui existent. Et ce qu'il y a, c'est que ces chemins, pour l'instant, ils sont empruntés par trop peu de monde, mais que si demain, beaucoup plus de monde les empruntait à ces chemins-là, et bien, oui, ils nous mèneraient à un autre monde. Et du coup, en fait, il faut voir un peu ces choses-là comme des fleurs qui sont les alternatives qui existent aujourd'hui, mais qui sont trop petites et trop peu nombreuses au milieu de plein de mauvaises herbes qui sont toutes ces politiques qui détruisent le climat, l'environnement, qui créent de plus en plus d'inégalités sociales. Et nous, notre action, à laquelle chacun peut contribuer à son humble niveau, c'est d'arroser ces fleurs, qu'elles grandissent, qu'elles deviennent plus nombreuses, et puis de désherber, d'arracher à la main ces mauvaises herbes pour qu'il y en ait de moins en moins, c'est que le terrain soit occupé par ces alternatives qui, en grandissant et en se mutualisant, vont faire société et sont en train de faire société. Le monde de demain, il existe déjà, et puis il est ici, à nos pieds, dans nos territoires.
Mariama Diallo, il y a aussi en Afrique de l'Ouest des fleurs au milieu des mauvaises herbes ?
Oui, tout à fait, il y en a et il y en a toujours eu. Je veux dire qu'en Afrique, le rapport à la nature, il a toujours été au cœur de nos sociétés. La différence entre nature et culture, elle est quand même très très récente en Afrique. La conservation, la préservation des ressources naturelles était une partie intégrante de la vie de tous les jours des Africains. C'est parti avec la colonisation, progressivement avec la colonisation d'abord arabe, puis occidentale. Mais aujourd'hui, c'est quand même l'occasion de remettre cette nature-là au cœur de nos vies. C'est investir massivement et s'investir dans une alimentation saine et durable. On a plusieurs coopératives de partout, avec des organisations comme Indapronat, comme le CNCR, qui regroupe l'ensemble des producteurs sénégalais. Donc cette conscience-là, elle est là et des efforts sont en train d'être faits. Pareil aussi sur la question de l'énergie, qui est quand même très très importante. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de personnes en milieu rural qui ont du mal à avoir accès à l'énergie, alors qu'on peut avoir de l'énergie solaire, on peut exploiter l'énergie éolienne puisqu'on en a les ressources, et il y a des efforts qui sont en train d'être faits dans ce sens-là, comme aussi il y a des efforts qui sont en train d'être faits dans la gestion des déchets, avec notamment le plastique. En avril, on a eu une loi qui interdit désormais l'utilisation des sachets de plastique, qui était un fléau quand même dévastateur pour ce pays-là. Donc, moi, je pense que toutes ces pépites-là, elles sont là, elles sont en train d'être investies petit à petit par les citoyens, un peu aussi par les collectivités et les décideurs, heureusement. Et on continue ce travail de sensibilisation-là, ce travail de disséminer un peu ces alternatives-là un peu partout, ce qu'on fait par exemple lors des camps climat, où on montre à des centaines de jeunes que c'est possible aujourd'hui de vivre autrement, avec des alternatives qui nous permettent de faire du lien, qui nous permettent de créer des emplois, qui nous permettent d'être beaucoup plus autonomes dans nos actions.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Le recueil Essi, que je vous invite à lire, est en ligne sur le site du mouvement alternatiba.eu. Vous trouverez le lien sur la page internet de C'est pas du vent et des vidéos bonus de nos invités sur les réseaux sociaux. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.